invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Formé il y a 10 ans sous le nom de Métro Verlaine, le groupe de rock ébrouissé articulé autour d'Axel et Raphaël a sorti en février de cette année son 3e album. Il s'appelle Pop Sauvage et marque un changement de cap dans le parcours du groupe tout en confirmant leur style. Année des cendres encore chaudes de l'après-punk, la musique de ce nouvel album conjugue aussi et au présent les influences de la scène new-yorkaise des années 60. Et bien plus encore, publié 2 ans après Funeral Party, la beauté sombre qui caractérisait la musique de Métro Verlaine a laissé entrer la lumière sur les 8 titres qu'il constitue. À cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir un habitué de l'émission à la personne d'Axel, moitié du duo Métro Verlaine, pour lequel il officie en tant que guitariste, compositeur et parolier. Et j'en suis évidemment très heureux. Bonsoir Axel, merci d'être à mes côtés ce soir en direct et jusqu'à 21h sur les ondes de Principe Actif.
Salut Laurent, c'est moi qui suis ravi d'être là.
Alors, Pop Sauvage, c'est le virage du 3e album, c'est un virage qui est difficile. Comment vous l'avez abordé, imaginé
Eh ben écoute, on a fait ce premier album comme si c'était ce 3e album, tu vois, le lapsus. On a fait ce 3e album comme si c'était un premier album, avec beaucoup de spontanéité, dans un temps très court et en essayant de prendre beaucoup de plaisir.
Votre précédent disque s'appelle Funeral Party. Il est sorti en 2022, en pleine crise sanitaire. Quelle partie de Métro Verlaine et de vous-même vous avez enterré pour renaître avec Pop Sauvage?
Mes espoirs de devenir footballeur professionnel, déjà, parce que le physique n'aide plus. Je pense qu'on a enterré la partie déprimée, mais pas dans le bon sens. Et je crois que le Covid a fait beaucoup, comme tu dis, on a enterré la partie Covid.
Et ça signifie quoi pour Métro Verlaine, pop et sauvage? C'est les deux termes qui définissent depuis le départ très très bien votre musique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus?
Ben, j'y réfléchissais tout à l'heure en préparant l'émission. Et en fait, très basiquement, j'ai envie de dire que c'est un peu la définition qu'on donne, Raphaël et moi, au rock'n'roll, quoi. C'est-à-dire le côté pop, en France, on en a toujours un petit peu peur, mais outre-Manche, c'est pas un terme négatif. Et il suffit de penser aux Kinks ou aux Jam pour s'en rendre compte. Et puis sauvage, parce qu'à un moment, on fait partie de ce monde, mais on a envie aussi d'être un petit peu en marge.
Les Anglais ont peut-être une vision plus ouverte que nous, les Français, de ce qu'on appelle la pop musique.
Bah, totalement, totalement. Et je pense que le fait de vivre en Normandie, c'est plutôt une chance pour ça, parce que c'est quand même un vivier de rock'n'roll ou de pop sauvage assez fort, et la proximité fait ça. Mais les Anglais sont très forts là-dessus et sont très forts sur d'autres choses, parce que, tu vois, je parlais de foot en rigolant tout à l'heure, mais supporter une équipe de foot et aller voir Joy Division en concert, quand t'as 20 ans à Manchester, c'est pas un gros mot. Et en France, il faut toujours intellectualiser les choses. Et je pense qu'on a un petit train de retard sur les British.
On va ouvrir la programmation. Donc c'est toi, bien sûr, comme à chaque fois, qui joue ton rôle prescripteur aussi en tant que passeur de musique avec un groupe que tu aimes par-dessus tout, qui a été un élément constitutif important dans la musique de Métro Verlaine et qu'on retrouve sur ce 3e album. C'est le groupe The Cure. Quel titre t'as choisi?
Toujours, bah, j'ai choisi le morceau 10-15 Saturday Night parce que c'est les débuts.
Thank you. C'était les Cure 10-15 Saturday Night. C'est le premier choix de mon invité Axel ce soir. On retrouve évidemment dans l'album Pop Sauvage des influences de ce groupe-là.
Ah bah, je crois que de toute façon, je ne pourrais rien faire de ma vie sans qu'il y ait une toute petite influence de Cure dedans, parce que j'ai trop écouté et ça m'a toujours accompagné. Et là, c'était intéressant de revenir au début aussi de Cure, tu vois, avec ce son très épuré, quelque chose de presque naïf. C'est agréable.
Alors, est-ce qu'on peut dire que les influences de la scène pré-punk, alors celle qui a préfiguré le punk dans la deuxième partie des années 60 et qui est en grande partie new-yorkaise, sont plus importantes que sur les deux premiers albums pour Pop Sauvage?
Oui, sans doute, parce que avec Raphaël, on s'est aussi remis à écouter, tu vois, toute cette scène du CBGBs, notamment Patti Smith, Television, Richard Hell et tout. Et l'année dernière, Tom Verlaine est décédé. On nous demande souvent pourquoi on s'appelle Metro Verlaine. Alors forcément, en France, Paul Verlaine, il y a cette espèce de folklore cocorico, et c'est un poète qu'on adore, évidemment. Mais Tom Verlaine, chanteur de Television et poète aussi, ça a été une grosse, grosse influence pour nous. Donc New York, c'est une ville où Raphaël a traîné, pas moi, pas encore, mais c'est un endroit qui appartient à Metro Verlaine.
Alors, quel a été le mode opératoire pour la composition et l'écriture, et comment vous êtes réparti le travail avec Raphaël?
Ben écoute, c'est la première fois où on a vraiment fait un travail 50-50, mais ensemble. C'est-à-dire qu'on s'est enfermé à la campagne chez Pierre et Sophie, qui écoutent sans doute l'émission.
Mais qu'on salue dans ce cas, s'ils nous écoutent.
Et qu'on les salue. Ils nous ont laissé l'étage de leur maison. On a installé un petit home studio pour faire des démos pendant, je crois, 3 ou 4 semaines. Et en fait, je suis arrivé avec plein de petits bouts de chansons, tu sais, que j'avais enregistrées sur mon ordi. Des fois, juste des lignes de basse avec un peu de batterie, ou des fois, des débuts de riffs de guitare et tout. Et on a fait un tri avec Raphaël, et puis on s'est mis à écrire assez spontanément. Et ce qui est intéressant sur ce disque, c'est aussi le fait que les textes, on les a écrits à deux.
Là ça, c'est une nouveauté par rapport aux albums précédents.
Ouais, bah déjà, il a fallu pour Raph, je pense, prendre le courage, tu vois, de se lancer et rentrer dans la partie écriture, on va dire. Et en fait, ça a été super positif et super naturel. Et sans rentrer dans le cliché, j'avais l'impression qu'on était un petit peu deux corps pour un cerveau. Et c'était super, encore une fois, spontané, je crois que c'est le bon mot, parce que en 4 semaines, on a mis en boîte le squelette de l'album qu'on est allé enregistrer dans la foulée avec les garçons à Saint-Jean-de-Luz.
Et on va continuer en musique avec Arlo Parks.
C'est ma grosse, grosse découverte de ces dernières années. C'est une artiste londonienne que j'adore absolument. Je trouve qu'elle a une voix incroyable. Les prods de ses morceaux sont terribles. J'adorerais l'avoir en France. Et ce que je te disais en antenne, c'est que je suis assez épaté parce qu'elle n'a que 23 ans. Elle a déjà sorti 2 albums terribles. Et dans son morceau, elle fait une petite référence à Robert Smith. Donc ça a du sens. Robert Smith.
black dog go away.
De Arlo Parks avec le titre Black Dog, avec une impression de lenteur aussi et de calme dans ce titre-là. Tu me disais que vous aviez enregistré en un mois, donc vraiment c'est pas long le disque pop sauvage. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle il y a une impression de vitesse dans ce troisième album, ou c'est l'aspect que vous vouliez donner dès le départ à ce disque?
Je crois que, comme tu as dit tout à l'heure, il y avait aussi le côté sortir enfin de la période Covid. Tu vois, et retrouver une espèce de flamme, quoi. Et ce qui était assez drôle pour nous, c'est que Raph et moi, on a bossé pendant un mois sur la préparation du disque et on a laissé, je crois, 2 semaines aux garçons pour apprendre en gros les parties de basse, de batterie, de deuxième guitare. Et on les a emmenés en studio. Ils n'étaient pas forcément totalement prêts et ça a donné un truc excellent. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que c'était des gens qui, étaient des très bons musiciens, ça on le savait, mais des gens qui tenaient aussi à Metro Verlaine parce qu'ils ont donné quelque chose de très fort. Et je crois aussi que la présence de Geoffrey Bastard, notre ingé son de live sur le disque, a peut-être libéré tout le monde et a donné un peu l'impression qu'on allait faire un concert, mais en studio. Donc... disons que la famille Metro Verlaine s'est déplacée et que ça a été, comme d'hab, très vite et très, très bordélique, mais à la fin, quelque chose de plutôt beau.
Alors, comment Raphaël a abordé le fait de chanter en français sur presque toute la longueur de l'album? Vous aviez déjà fait des titres en français auparavant, mais pas autant, enfin, la proportion n'était pas aussi importante.
Bah, disons que sur Cut Up, on a enregistré des morceaux qu'on avait déjà joués plusieurs années, comme Manchester ou La Vague, par exemple. Et d'avoir fait un album en anglais, je crois que ça l'a libéré, quelque part. Ça a libéré sa voix. C'est-à-dire que sur le premier album de Metro Verlaine, elle parle, chante, avec beaucoup de classe. Sur l'album Funeral Party, où les morceaux sont plus en anglais, elle y va à fond. Et là, je crois qu'elle a trouvé sa voix.
Et est-ce qu'on écrit différemment quand on écrit en français, vous qui êtes habitué là aussi à l'anglais? Est-ce que là, on aborde la composition de manière différente ou pas du tout?
Dans les choix des mots, parfois c'est intéressant de revenir à des choses simples en français. Tu vois, c'est comment dire. Je vais te donner un exemple, mais je crois que c'est le morceau qui va suivre. Amour d'été.
C'est un de mes préférés de l'album.
C'est un morceau qui parle d'une relation amoureuse qui se passe mal. Et en fait, on a fait une espèce de métaphore autour du monde de la boxe. Et c'est assez libérateur d'aller chercher du vocabulaire qu'on connaît, tu vois, du monde de la boxe en français. C'est plutôt simple. Alors que quand on écrit un titre en anglais, ben tu vas essayer de trouver un argot ou quelque chose qui se rapproche d'un monde comme par exemple la boxe, mais sans le maîtriser vraiment, parce qu'on est Frenchy, quoi.
Alors on va écouter Amour d'été, donc extrait de Pop Sauvage, votre dernier album, Les Métros Verlaine. Belle voix de Raphaël des Métros Verlaine pour cette émission qui reçoit ce soir Axel Verlaine, moitié du duo hébreuicien. Mais après Amour d'été, on va parler de la poésie de la grisaille d'une ville comme Évreux qui force la détermination. Hein. Pourtant, vous êtes parti dans le sud de la France pour enregistrer Pop Sauvage. Comment s'est fait ce choix et quel impact il a eu sur l'ambiance de l'album et sur votre état d'esprit?
Je crois vraiment que d'être allé au Pays Basque, tu vois, d'avoir du soleil au mois de mars de l'année dernière, parce qu'on l'a enregistré il y a un an, ça a fait du bien. Ça a fait du bien et c'est bête, mais la musique de Métro Verlaine a toujours eu un petit côté surfy. C'est un truc qu'on a d'ailleurs beaucoup partagé ensemble, hein, que ce soit dans le punk, dans le garage, dans machin. Cette espèce de sensibilité surfy, et il n'y a pas à dire... Le Pays Basque, c'est pas la Normandie, quoi.
Alors justement, l'album a été enregistré sous la houlette de Charles Rouet. D'ailleurs, on est bavard, même quand il y a un titre qui passe. Donc, on va passer Crocodiles après. Donc, Charles Rouet, c'est le guitariste et la tête pensante du groupe californien Crocodiles. Vous avez déjà travaillé avec Charles auparavant. Quel a été son apport sur ce disque?
Je crois qu'on a été un petit peu plus... aujourd'hui, on est un petit peu plus, comment dire... mature ou alors prêt à travailler en studio et que du coup il a moins fait la direction artistique de A à Z, il a plutôt fait la partie arrangement. Et ça a été super positif en fait parce que ça l'a libéré aussi d'un côté technique. Et je crois qu'il s'est amusé à jouer des claviers, à rajouter des guitares acoustiques et il a trouvé en la personne de Pierre Cabane un espèce d'acolyte chevelu avec qui jouer du piano. Voilà.
Alors on connaît la côte ouest pour sa scène rock psychédélique, notamment celle des années 60, là encore on en revient aux années 60, et l'esprit de vacances que symbolise cette partie des États-Unis. Est-ce qu'il a amené un esprit de vacances sur Pop Sauvage, Charles?
Bah, un esprit de vacances à l'américaine, c'est-à-dire que tant qu'on était en France, il buvait pas une goutte d'alcool, et puis quand on passait la frontière espagnole le soir, we are in Spain, let's go, quoi.
Il a libéré tout le monde, cet enregistrement, j'ai l'impression.
Ouais, je crois aussi.
Et alors, quelles sont les autres personnes qu'on a citées, Charles? Quelles sont les autres personnes qui ont, même si on a cité Pierre à l'instant, qui ont collaboré à cet album? On peut commencer par les musiciens avec qui vous jouez, on n'en a pas encore parlé.
Bah, il y a Bertrand Gélin à la batterie, il y a Romain Rioux à la basse, Pierre Cabane, deuxième guitare et clavier. Et puis, il y a Geoffrey Battard qui est au son, qui est notre ingé son live, et qui est plus que ça parce que. On discute aussi de la couleur musicale de Métro avec lui et qui a en gros fait la passerelle entre le gars du stud, Rémi Duprat, qui est un mec adorable. Enfin, c'était vraiment une chance de tomber sur lui. Il a été super à l'écoute. Il nous a montré comment marchaient toutes les machines, des grosses bécanes qui coûtent très cher et tout. Et Geoffrey, en fait, on a senti qu'il a pris du plaisir à enregistrer l'album de manière technique. Et puis ensuite, on est revenu à Évreux et Raphaël et moi, on est allé à Octopus Garden Studio chez Arthur Guégan. Et Raph a enregistré les voix là-bas et dans la foulée, on a fait le mixage.
Et on va écouter Crocodiles, quel titre, Axel?
Eh bien,
c'est le numéro 6, parce qu'on bavarde, mais on calme pas les mensonges.
C'est une chanson d'amour déçue ou déchue, et ça s'appelle « She splits me up ».
Yeah.
Me Up des Américains, pardon, de San Diego, pour être plus précis, de Crocodiles, dont Charles Rowell, guitariste et tête pensante, produit ce troisième album de Pop Sauvage. Pop Sauvage est plus dansant que son prédécesseur. D'ailleurs, mon fils Félix, qui a un an, danse à chaque fois que je l'écoute. Comment est venue l'idée de faire un album plus groovy?
Eh ben écoute, j'ai racheté une basse.
Est-ce que c'est la seule raison?
Et puis, en vrai, j'ai beaucoup réécouté les Happy Mondays, les Stone Roses et tout, toute cette scène, parce que tu sais, aujourd'hui, les années 90, tout le monde revient dessus. Alors, il y a des gens pour qui ça semble logique, parce qu'ils ont connu, par exemple, la période grunge, etc. Mais moi, je suis né en 90. Toute cette mode vestimentaire et tout, ça me fait un peu chier, je vais pas te mentir. Et pourtant, en étant amateur de football et de Manchester United, je vois qu'effectivement, il y a une collab, par exemple, entre Manchester United et Stone Roses, tu vois, sur une ligne de maillot. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de replonger dans des groupes qui n'ont pas eu non plus le succès qu'a eu Oasis ou Blur, de 3 ans après, ou Nirvana
pour le grunge.
Un petit peu avant. Et en fait, il y a vraiment une scène qui, je trouve, est un petit peu sous-estimée. Sous-estimée, et je pense que ça date du shoegaze, on en parlait hors antenne, tu vois, la fin des années 80, début 90. Et il y a des groupes comme ça, voilà, Happy Mondays, t'écoutes, c'est finalement, tu mets une boîte à rythme, c'est pareil, tout est dans la basse. Et est-ce que c'est pas ça la définition du post-punk?
Ça pourrait, c'en est une en tout cas. C'en est une, il n'y a pas que ça, l'explosion punk, je pense qu'elle a ouvert plein de possibilités après avoir mis les compteurs à Z au milieu des années 70 en Angleterre. Quand tu me parles de Nirvana, de Blur et d'Oasis, c'est aussi des groupes qui ont fait l'objet d'une grosse exploitation commerciale. Est-ce que ça flingue la créativité d'après toi?
Non, je pense que, objectivement, je pense que de toute façon, les chansons, ils les avaient en eux. Et ou pour des artistes féminines, elles les avaient en elles, mais je crois que la musique, elle est faite pour être diffusée, elle est faite pour être aimée, elle est faite pour être écoutée, et c'est ce qu'on fait ce soir, en fait, tu vois, je passe du Metro Verlaine, mais aussi je passe des trucs que j'aime, et je crois que c'est génial pour un artiste d'être mis en avant, parce que avec Internet, tu peux être écouté aujourd'hui en Afrique du Sud, au Brésil, en Allemagne, en France... Je crois qu'il faut pas avoir peur du succès et qu'encore une fois c'est très franco-français. On va toujours
une peur de la réussite. On aime les perdants magnifiques qui sont très beaux aussi.
Moi j'adore les losers magnifiques, mais avec du recul, les Dogs c'est des gagnants.
Et alors est-ce qu'on peut espérer un quatrième album disco du coup?
Eh ben écoute, si la cheville de Raphaël ne reprend jamais vie, ce qui n'a pas l'air d'être le cas ce soir. Je sais que t'écoutes l'émission de ton canapé.
Et on la salue Raphaël et on lui souhaite un bon rétablissement.
Mais finalement, tu vois, ça fait des années qu'on s'échine à dire que je viens plus du punk et Kraft vient plus de la soul. Est-ce que à un moment, ça serait pas l'occasion de laisser entrer d'autres influences dans Metro Verlaine, tu vois? Si on avait eu le temps sur l'album Pop Sauvage, il y a un morceau, c'est Amour d'été. On avait imaginé qu'un orchestre de trompettes viennent faire quelque chose sur les refrains. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le budget non plus, on ne va pas se mentir, parce qu'on n'avait pas Nirvana ni Oasis. Non. mais pourquoi pas, en fait. Je me suis mis à écouter du jazz, je me suis mis à écouter d'autres choses, et je sens des influences pondre de partout, parce que, encore une fois, le post-punk, c'est un espèce de sac un petit peu bâtard où... t'écoutes Gang of Four, je crois que tout est dit, en fait. C'est très arty et en même temps, c'est très artisanal, quoi.
Alors, tu avais déclaré ce troisième album est plus lumineux que les deux précédents. Le fait d'être dans un processus créatif, a-t-il contribué à aller vers la lumière? Est-ce qu'il y aurait eu autant de lumière dans vos vies aujourd'hui si Metro Verlaine n'avait pas existé? C'est une question assez personnelle.
Ah bah, si Metro Verlaine n'avait pas existé, je pense que moi je serais mort, en fait, hein. Je crois que j'aurais jamais lâché une part de ma personnalité qui est trop dark, qui est trop excessive, et j'aurais continué à me défoncer trop, et ou alors trop déprimé, parce que la musique qu'on fait, même si elle est plus lumineuse, elle est quand même, tu vois, quand t'écoutes les Smiths, quand t'écoutes les Cure, quand t'écoutes même les You Said Strange, tout ça vient d'une douleur, Et je crois que si j'avais pas eu l'opportunité, on va dire, d'exprimer cette douleur, je l'aurais mal vécu. Ou alors, pire, je serais devenu fan du PSG. Alors là, c'est pire que mourir.
Et alors, on va écouter un cinquième titre. Qu'est-ce qu'on écoute après
Eh bien, écoute, on va écouter un groupe aussi de gens qui souffrent, mais avec beaucoup d'élégance. C'est My Bloody Valentine. Et c'est un morceau que j'ai trouvé sur une compile Rough Trade à la médiathèque. Et je tiens à, vraiment, pour les gens qui écoutent l'émission, à rappeler qu'à la médiathèque, effectivement, on trouve tout sur Spotify. Eh ben non. C'est pas vrai. La compile Rough Trade, il y a des pépites dessus et c'est le morceau d'un EP. L'EP s'appelle Sunny Sunday, c'est en 87, donc 4 ans avant le chef-d'œuvre Loveless, qui a fait d'eux un groupe culte. Et le morceau s'appelle Paint a Rainbow.
Control of slime and goo. I smear it on your cheeks like news. Eyes of red and lips of blue. It's cold and safe inside of you. Tiny diamond shower over your body. Little drops of shark infested sea. When the colors change, I will chase your sadness away.
C'était My Bloody Valentine avec un titre de 1987, Paint in Rainbow, dessiné à un arc-en-ciel. Est-ce qu'il y a des verrous qui vous empêchaient auparavant d'aller exactement où vous vouliez et qui ont sauté avec Pop Sauvage? Tu m'as déjà pas mal répondu en début d'émission.
Je pense que le fait d'écrire à deux a fait sauter tous les verrous. Je crois que c'est vraiment le truc... au fond de moi, j'ai toujours, et je crois que j'aurai toujours l'envie de faire un album qui ressemble un peu trop, sans doute, à Unknown Pleasure de Joy Division ou à certains albums de Cure. Mais disons que Raphaël fait un peu garde-fou et lumineux, c'est le mot qu'on sort, lumineux et spontané, c'est ce qu'on sort un petit peu depuis le début de l'émission, et je crois que c'est la grosse part de ce que Raphaël amène dans Metro Verlaine depuis 10 ans. Et moi, je dirais pour moi, intelligent et classe. Mais plus sérieusement, lumineux, oui. Tu vois, sa part 60s et tout...
Mais Raphaël étant une femme de soul, c'est aussi une décennie qui a été très importante et très riche pour la soul music.
Carrément, et puis en même temps, ça c'est pas si loin du punk, tu vois, morceaux de 2:30 avec des refrains qui accrochent et en fait t'as envie de danser et d'oublier le monde. Je sais pas, c'est pas une question de combien de temps dure ton morceau, mais c'est avec quelle énergie t'arrives à balancer ça, et ça peut être de l'amour, ça peut être tout doux, ça peut être aussi des gros points dans la gueule comme les Clash ou les Pistols. la musique, c'est un médium qui est terrible parce que t'as l'impression que ça se répète toujours, mais tu te fais toujours prendre, tu vois, tu tombes toujours dedans, quoi.
Alors Raphaël, justement, a déclaré récemment, c'est dans une interview menée par Frédéric Maître, très belle interview d'ailleurs, pour le numéro 25 de la revue Persona, une revue qui dévoile la face cachée des artistes, dont vous étiez d'ailleurs en photo sur la couverture de ce numéro 25. Prendre son sac à dos, partir, tout laisser derrière soi et recommencer ailleurs, c'est un idéal. Elle vous vient d'où, cette mythologie du voyage, de l'évasion et du road movie?
Bon, déjà, Raphaël a dit l'inverse pour Playboy Magazine. Hein.
Oui, parce que vous avez aussi eu
un album de moi chez Playboy sans que j'aie besoin de me dénuder. c'est important. Non, mais je dirais que la littérature a toujours fait aussi partie de Métro, mais une littérature underground parce que, et on le voit aujourd'hui, tu vois, ça m'emmerde un peu d'être français, d'avoir un pseudo comme Axel Verlaine et de voir que à la télé et dans les médias, on fait des ponts d'or à des branleurs comme Bec Bédé et compagnie, alors que, tu vois, je pense qu'il y a des Kerouac français, des Bukowski français, des Burroughs français, et nous, on vient de là, avec Raphaël. On vient de cette idée que la vie, elle s'apprend sur le tas. Qu'il faut toujours être en mouvement. Je crois que Métro Verlaine, c'est un truc qui est en mouvement, pour toujours. Et le jour où Métro Verlaine sera stabilisé quelque part, c'est qu'on aura tout dit et qu'il faudra arrêter.
Et alors sur la pochette de l'album, dont la photo est signée Ella Hermé, on te voit avec Raphaël qui conduit la mobylette et toi qui es sur le porte-bagages.
C'est truqué. Hein,
est-ce que c'est un clin d'œil? Sur la place des femmes, sur la scène rock, précaré jusque-là masculin. Bah, et qui est en train de changer en ce moment, où ça fait quand même des festivals et des associations qui prennent cette question en charge, en disant les femmes, aujourd'hui, la scène féminine, en musique ou ailleurs, n'a pas la place qu'elle mérite.
Oui, c'est pas la scène féminine, je pense, c'est la place des femmes, comme t'as dit. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que c'est le mec qui conduit la moto et la meuf qui est derrière. Et en fait, ça nous a fait marrer de faire cette séance où on inverse, tu vois, on casse un petit peu les codes sans non plus rentrer dans la surenchère de... Je pense que le problème de la scène musicale actuelle, c'est qu'il faut avoir un discours ultra engagé pour qu'on te prenne au sérieux si t'es une femme. Si tu es, par exemple, Raphaël de Métro Verlaine et que tu écris depuis 10 ans avec Axel de Métro Verlaine, qui est un homme, et bien, quelque part, on te le reproche. Et moi, j'ai un respect incroyable pour Raph parce qu'elle a connu des trucs en live que personne ne peut se rendre compte. Je me rappelle d'une date en Angleterre où elle descend de scène, il y a un pogo et tout. Et quand elle remonte, elle a l'air pas bien et on parle à la fin, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Elle dit, il y a un mec, en gros, qui m'a attrapé les fesses, touché les seins et tout. Et toi et moi, on adore, par exemple, Fat White Family, Shame Idols et tout. Et on les voit, ces mecs, se jeter dans la foule et tout. Et ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et en fait, c'est ça la place de la femme dans la musique, c'est de devenir... quelque part, protégée. Tu vois, ce serait important que les femmes soient protégées, qu'elles soient dans le public ou derrière un micro. Et puis aussi, qu'on leur fasse une place autre que sur scène, c'est-à-dire dans les labels, dans les salles de concert.
Dans les salles, à la technique aussi, qui est un métier très genré.
On a de la chance d'avoir Fanny Corral à Évreux, ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre de nanas qui programment dans des SMAC. Enfin... En gros, il y a un travail à faire, mais je crois que des fois, la scène musicale actuelle, disons qu'elle cache la forêt avec un petit bâton, et c'est dommage.
Et on va écouter un deuxième titre de votre troisième album Pop Sauvage de Métro Verlaine. Lequel tu choisis, Axel?
Eh bien, écoute, j'ai envie d'écouter, je crois que c'est le numéro 3, Mustang.
Mustang de groupe Métro Verlaine, deuxième extrait de l'album Pop Sauvage des, du groupe hébroïcien et sixième choix de mon invité ce soir, Axel Verlaine. Alors Pop Sauvage a été signé sur le label le CEP Records, une enseigne qui héberge beaucoup de groupes made in Normandie, donc on peut en citer Wait You Please Die, Die Crap, les copains de You Said Strange, le groupe Cerveau. Est-ce que pour toi la Normandie est la région rock de France en ce moment?
Bah, encore une fois, je pense que la Normandie a un point commun avec le rock de par la géolocalisation. Enfin,
c'est la région la plus anglaise de Normandie.
Little
de
Bob
France.
Existe et qui vient du Havre, c'est le plus anglais des petits français. Enfin, tu vois, il y a un truc qui, je sais pas, c'est un territoire qui. Oui, t'as raison, on est les plus anglais des Français.
C'est une région, effectivement, géographiquement, la région la plus anglaise de France. Du coup, est-ce que des collaborations avec des musiciens et, ou musiciennes de Rouen, du Havre ou d'autres villes de la Normandie, c'est des choses que tu envisages ou pas du tout?
Disons.
Sachant que t'as une bonne bande avec toi, là, déjà, hein, et que vous avez encore
des
chemins à faire
ensemble. Mais...
de première classe.
Là, tu vois, trois albums de métro, une BD, un roman. Je commence à me poser la question de pourquoi pas créer un label, en fait. Et je tiens à remercier Anton du CEP Records, qui est un vrai passionné à l'ancienne, qui est un vrai... On rigolait il y a quelques jours parce que, tu vois, on vend des disques à l'étranger aussi et c'est un bordel pour les envoyer les vinyles par la poste. Et il y va, il le fait, il fait ses petits colis et il les envoie en Suède, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis et tout. Et je trouve ça super cool qu'il y ait des gens qui le fassent par conviction. Parce qu'il n'y a pas de thunes à se faire dans les labels.
Oui, tu vois, c'est fini depuis longtemps, ça a toujours été difficile, mais alors là, c'est une catastrophe.
Et je pense qu'il faudrait foutre le feu à toutes les grosses maisons de disques, histoire que les labels indépendants reprennent clairement le pouvoir, parce que c'est là où il y a du goût, et c'est là aussi où il y a des artistes dont on n'entend jamais parler.
Et la place qu'ils méritent.
Absolument. Mais ça me fait sourire que Anton du CEP Records, plus connu sous le nom de Tony Garagiste, DJ Maker incroyable... Eh ben, je l'imagine à la poste avec ses cartons de vinyle de métro, de Die Crap, de You Said, à faire ses petits envois et tout. Et je crois que il y a un côté militant en fait à créer un label de musique, à tenir une émission de radio dans une radio associative, à écrire dans des fanzines comme les ou organiser des concerts comme les copains de Venus In Fuzz et tout. Et en fait, est-ce que aujourd'hui le hip-hop est super à la mode et perd de son essence depuis 2-3 ans, l'essence vraiment de rébellion. Est-ce que c'est pas la meilleure chose qui soit arrivée au rock'n'roll depuis quelques années, le fait qu'on redevienne souterrain?
Oui, oui.
Tu vois, qu'on redevienne des passeurs un petit peu sous le manteau, à faire des émissions locales, à faire des fanzines, à envoyer par la poste des vinyles. Est-ce que c'est pas ça, en fait, la définition post-punk, pop sauvage, rock'n'roll?
Et puis c'est une forme de résistance par rapport à la dictature des standards, moi je trouve, et puis d'une société de plus en plus marchande, où les produits sont de plus en plus marketés. C'est pour ça que je te posais la question pour Blur et Oasis, du risque de l'exploitation, de la
surexploitation. Après, j'aimerais bien vendre 3 millions d'albums, hein, y a pas de souci, j'achète une ferme et je fais 15 gosses, mais en même temps, c'est cool, tu vois, ce truc... Là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui font partie de groupes qui sortent aussi des trucs comme Bukero Banzai et tout. Bah, c'est compliqué, en fait, de défendre ta musique quand t'es pas dans le circuit. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le rock'n'roll n'est plus dans le circuit. On est redevenu underground. Mais est-ce que c'est pas le meilleur truc qui nous soit arrivé avec 2-3 têtes de proue comme Idols, on parlait, Fontaine D.C., etc. Est-ce que c'est pas ça, en fait, notre vie? Tu vois, et laissons les autres vendre leur cam et continuons à passer les choses, quoi.
À militer. Ouais, ce que tu dis,
je deviens spirituel.
Oui.
Je vieillis, Laurent, qu'est-ce que tu veux.
Et on va écouter un groupe, bah, moi de mon époque,
qui ne vieillit pas,
extrait d'un album dont je suis, mais alors, que j'ai usé jusqu'à la corde, c'est The Queen Is Dead avec Alain Delon qu'on voit en pochette, c'est Les Smiths, bien sûr, avec la très belle voix de Morrissey. T'as choisi There Is a Light Who Never Goes Out, et je pense à Joanne ce soir, une collègue qui adore ce titre. Tu veux nous dire deux, trois mots et sur Les Smiths et sur ce titre-là?
Ouais, bah écoute, tu vois, c'est rigolo parce que les Smiths, c'est quand même ultra typé pop britannique des années 80. Et en réécoutant l'album, je me dis putain, ça vieillit pas. Ça ne vieillit pas dans la prod, etc. Je pense que Morrissey est devenu une vieille emmerdeuse, mais la musique vaut toujours le coup. Take me out tonight.
People and I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us. And a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home. Because I haven't got one. I haven't got one.
extrait du chef-d'œuvre absolu qui est The Queen Is Dead du groupe anglais Les Smiths. C'était le 7e choix de mon invité Axel, donc à quelques décennies de moins que moi, mais qui écoute la musique que j'écoutais quand j'avais 17 ans. Vous êtes aussi des fans inconditionnels du groupe irlandais Fontaines D.C. C'est d'ailleurs toi qui me les as fait découvrir. Leurs disques séduisent autant les gens de 50 ans et plus qu'une partie de la jeunesse amatrice de rock indé. Comment t'expliques ce phénomène intergénérationnel dans le rock?
Eh ben écoute, je crois que, comme je disais tout à l'heure, la musique, c'est une boucle. Et en fait, on a besoin de symboles. Et je crois que Fontaines D.C., c'est un groupe qui fait du bien à tout le monde. Leurs morceaux, c'est pas toujours les meilleurs, mais c'est ceux qui sont joués avec le plus de cœur. Et pour les avoir vus en live plusieurs fois, je peux t'assurer que tu ressors pas indemne. C'est un peu comme Idols, hein, tu ressors pas indemne d'un concert de Fontaines D.C. Et y a des références aussi. Tu vois, on se réclame tous de Fontaines D.C., Metro Verlaine, You Said Strange, tous, Cure, Velvet Underground, tu vois, on remonte toujours l'échelle. Et je crois qu'on n'invente rien, mais on le fait à notre sauce.
Un bon disque, c'est la synthèse inédite de tout un tas de références digérées.
Mais c'est vrai, et puis aussi d'une époque. Tu vois, pourquoi le passeport punk aujourd'hui est autant à la mode, c'est parce que, putain, regardons le monde tel qu'il est.
Pour le coup, les Fontaines D.C. En sont un exemple.
Absolument. Enfin, le post-punk anglais, quand il sort, c'est l'ère Thatcher, c'est le chômage de masse, c'est des crises identitaires, racistes, etc. au Royaume-Uni. Ça donne quoi? Ça donne Gang of Four, Wire, The Fall, Joy Division, Cure et ce genre de groupe. Et aujourd'hui, regardons notre pays, regardons le monde juste dans lequel on vit, la réaction artistique, elle ne peut être que très forte. Et c'est pour ça que je disais que je suis très fier que le rock'n'roll soit devenu underground, parce qu'il y a un truc de résistance, un petit peu. Et quelque part, j'ai un peu mal au cœur quand je me dis que le hip-hop, c'est devenu un produit marchand.
Il se passera peut-être la même chose pour le hip-hop dans quelques décennies.
Ouais, bah c'est toujours un retour, tu vois, mais... Ouais, ça me fait chier de penser à NWA et de penser à toute cette trappe pourrie qui juste est de la musique de pub pour des parfums, quoi.
Bah, tu m'avais confié lors d'une des nombreuses émissions qu'on a fait ensemble. Je suis très attaché à Évreux. Je suis un gars d'ici. Votre premier concert depuis la sortie de Pop Sauvage aura pourtant lieu à Paris, à la Boule Noire, le 23 mars de cette année. Ça dit quoi de commencer la tournée de son dernier album dans une salle mythique de la capitale dans votre parcours?
Un petit peu de pression et en même temps beaucoup d'excitation. Et puis, c'est important de se dire qu'on jouera à Évreux cette fois en fin de tournée. Tu vois, on sera vraiment chaud. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous les Évreuxiciens. On va bientôt annoncer la date de notre concert normalement au Cube. Sauf si Fanny Corral démissionne d'ici là, mais je l'espère pas.
Vous serez maintenu quoi qu'il en soit. J'espère que Fanny va rester à Évreux.
Mais du coup, je compte sur les Évreuxiciens. On a envie de se faire un kiff. Là, troisième album. J'avoue, j'aimerais bien qu'on fasse le concert dans la grande salle. Du coup, on fera les places pas chères.
Mais vous aurez largement votre
réservé,
place. Largement.
Réservez rapidement et faites-nous prendre l'ascenseur.
Alors tu mecs depuis longtemps dans des influences très anglaises, j'irais même très nord de l'Angleterre et même très Manchester. Vous en avez même fait une chanson de cette ville qui compte dans l'histoire du rock. Est-ce que le choix du français pour ce troisième album annonce un détachement avec la culture anglo-saxonne?
Pas du tout, je pense qu'au contraire, c'est mettre des mots français sur du son british.
Et alors, t'es un fan de Ken Loach, dont les films mettent en scène des familles issues de la classe ouvrière. On citait Manchester tout à l'heure, dans la question précédente. Une ville avec des baraques ouvrières en briques rouges. Quel regard tu portes, toi, sur la working class?
Eh bien, j'ai un double regard parce que j'en ai fait partie. J'ai bossé longtemps dans l'industrie avant de me lancer dans la musique. Et à la fois, je sais à quel point c'est difficile. Je fais partie des gens qui en ont marre que des journalistes ou des petits bourges défilent sur les plateaux télé pour parler de la classe ouvrière sans jamais avoir mis les mains dans la merde. Et en même temps, je suis un petit peu triste parce que je sais que c'est un monde qui est impitoyable. C'est un monde qui est très dur et la fameuse, ce qui est très cher à certains de nos politiques, la fameuse entraide de gauche, elle n'existe plus. Les gens survivent Et il va falloir repenser tout ça.
Alors j'ai l'impression, alors l'émission touche à sa fin, on a évidemment débordé, mais ça c'était sûr. J'ai l'impression qu'avec cet album, vous avez traversé les eaux troubles du doute. Quelle suite il annonce pour les années à venir? Dis-moi si cette impression que vous avez traversé les eaux troubles du doute après le Covid, c'est une bonne impression.
Eh bien écoute, on a failli tout arrêter et aujourd'hui on arrêtera quand on sera mort. Donc t'avais raison.
Alors on va se quitter, hein. Je fais partie des nombreuses personnes ça, qui sont heureuses de vous voir aujourd'hui à la place que vous méritez. Je tenais à te le dire parce qu'on se suit depuis le début et on est plus que des collaborateurs d'ailleurs. Je suis vraiment très heureux comme beaucoup d'autres de vous voir à cette place avec ce beau disque. Je te remercie mon cher Axel.
Merci Laurent.
Pour ta présence sur
Toujours
le plateau, d'avoir répondu. C'est un plaisir pour moi aussi. J'espère que ça a été un plaisir pour vous. Donc un jour à 20h sur les ondes de la radio et Bruxelles Principe Active dans cette émission Tour de Piste que vous venez d'écouter, je recevrai François Caillot pour la sortie de son dernier album. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Avec quel titre de Métro Verlaine on se quitte?
Eh bien, Birthday Party, j'avais un doute. Birthday Party, et je vais conclure en disant à tous les gens qui suivent Métro Verlaine depuis 10 ans, merci de nous suivre, merci pour l'amour, on vous aime aussi et ça compte.